La parole est à Monsieur Ross, dans le calme.
Est-ce que ça sera possible de pouvoir revenir dans la prise de parole sur l'intervention de Mme Cavillé?
Bien sûr. Merci. Mais vous permettrez qu'on revienne à la chose sur celle de Mme. Oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci.
Je vais essayer d'être très court.
Ah non, soyez pas court. Excusez-vous d'abord. Soyez, vous vous inscrivez et vous aurez la parole, cher monsieur. Je vais mettre quel nom? Celui qui se permet. Pardon. Qu'est-ce que je vais prendre?
Rouille.
Parfait, monsieur Rouille. Ensuite, monsieur Siaric, vous voulez parler?
Oui, oui.
Monsieur Siaric. Monsieur Siaric, vous voulez mettre la parole en socialisation?
Mais je vais peut-être.
Non. Rien du tout.
Je ne vais pas parler là parce que je ne parle pas.
Il n'y a aucun privilège. Henri, on peut commencer. Alors, monsieur Ross.
Oui, donc, le micro. En fait, c'est le problème de. Des essais de non-infériorité. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, beaucoup de structures se lancent dans des.
Oui, aujourd'hui, beaucoup de structures se lancent dans des essais de non-infériorité avec éventuellement un espoir caché de pouvoir sortir avec supériorité.
Oui, c'est l'objectif numéro 2.
Normalement, le problème, c'est qu'en statistique, quand on prévoit un design, c'est parce qu'on a réfléchi à ce qui pouvait arriver. Et donc, si on prévoit de faire un essai non infériorité, c'est qu'en fait, au niveau de l'ensemble des connaissances qui sont disponibles, on pense que ça pourrait être inférieur, mais on pense que ça pourrait pas être. Bon, on ne voudrait pas que ça soit très inférieur. Donc, ça veut dire que la logique de la construction de l'essai, elle est là. C'est pour ça qu'on part sur un essai de non-infériorité. Donc c'est vrai qu'après, la transformation d'un essai de non-infériorité en essai de supériorité, c'est une magouille statistique, et je suis statisticien, donc je peux le dire que c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est une magouille pour justement transformer des essais, alors qu'au départ, toutes les données ne pensaient pas du tout que ça pourrait être une supériorité. Donc, en fin de compte, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on va transformer les essais d'un non-infériorité en essais de supériorité, alors qu'en fin de compte, il y a 95% sur 100 pour que ça soit un pur hasard de trouver une supériorité. Donc, il faut arrêter de dire qu'en pratique, on peut transformer facilement un essai de non-infériorité en supériorité. C'est du pipeau. Voilà.
Monsieur Mercier.
Merci Cécile pour cette conférence. Moi quand j'entends non-infériorité, en fait, j'ai l'impression que c'est de la novlangue. Et j'hallucine complètement que des termes comme ça puissent être utilisés et puissent fouiller un peu les pistes, donner des impressions qu'on fait quelque chose d'intelligent. C'est affolant. Mais je trouve ça étonnant que, en statistique, c'est utilisé couramment ce terme de non-infériorité.
Oh là là, c'est-à-dire
qu'on est parti dans une dynamique de ne rien améliorer, de rester aussi mauvais ou pire. Quoi, c'est ça. C'est encourageant pour la suite.
Monsieur Rouille.
Oui, je ne vais pas rebondir sur ce qu'a dit notre collègue statisticien, mais je partage avec lui cette information. Je pense que. Un des gros problèmes, c'est le bras contrôle. Alors d'ailleurs, le terme de bras contrôle n'a pas été utilisé. Le bras contrôle, c'est le dépistage conventionnel. Ce n'est pas le même selon les trois pays ou les quatre pays qui sont associés. C'est évidemment un petit peu gênant. Alors, il va y avoir certainement des ajustements. Mais ça, c'est quand même choquant. Moi, j'étais très choqué des termes employés, je n'entre pas dans les détails, mais le bon sens laisse entendre que, je ne sais pas ce que ça veut dire en statistique. Moi, quand j'ai fait le bon sens peut faire penser que, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un effet, il montre ou il ne montre pas une non-infériorité. En l'occurrence, celui-ci, une non-infériorité. supériorité. Et il ne répondra qu'à cette question-là, et pas à une autre. Voilà. Je pense qu'il faut être très précis, et statistique, c'est une pratique rigoureuse, et c'est vrai que c'est une déviance actuelle où vous voyez venir des gens très diplômés de l'université vous expliquer qu'il y a des tendances. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une tendance. C'est ou c'est pas différent, c'est équivalent ou c'est pas équivalent. La tendance, parce que la courbe est un petit peu en dessus ou un petit peu en dessous, c'est de la sous-thèse.
Monsieur Siari.
À propos des, je voulais. Bon, alors à propos des effets de non-infériorité, c'est maintenant courant. Par exemple, quand on a testé les anticoagulants d'action directe par rapport aux antivitamines K, on a fait d'abord un essai d'infériorité et par une baguette, un coup de baguette magique, on les a transformés en essai de supériorité. Et donc, voilà. Et ce sont pas les mêmes protocoles. Tu as raison. Quand on fait un essai de non-infériorité, on fait ça en pair protocole, uniquement les gens qui ont suivi le traitement jusqu'au bout. Quand on fait un essai de supériorité, on le fait en intention de traiter. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font des essais de non-infériorité en intention de traiter, ce qui leur permet de manipuler, de transformer l'un en l'autre. Mais maintenant, ça va de plus en plus loin. On prend un médicament qui est complètement inutile, qui n'a rien apporté sur le plan clinique, qui est un inhibiteur du TPPK. Pour le diabète, c'est la sitagliptine. Eh bien, pour avoir l'AMM, vous savez ce qu'on a fait ? Un essai de non-infériorité par rapport au placebo. Voilà. Pour démontrer qu'il était non inférieur à un placebo. Je pense que là, on a atteint c'est les 7 écos. Ça s'appelle les 7 écos. Là, on a atteint, au niveau du risque cardiovasculaire, je pense que là, on a atteint un degré d'absurdité qui peut difficilement être franchi. Et enfin, il y a une troisième conséquence des effets de non-infériorité. À force d'accepter des critères de non-infériorité, c'est ce qu'on appelle le biocrip. Ça veut dire qu'on va avoir à la fin des médicaments comparés, des non inférieurs qui sont non inférieurs et non inférieurs. On aura des médicaments qui ne seront pas plus efficaces qu'un placebo. Ça, c'est le risque de la répétition des essais de non infériorité. Voilà. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est devenu banal et très fréquent.
Ok. Monsieur Roy, on reste ensemble. Monsieur Inscrit, donc la parole est à moi. Ce matin, on a parlé d'extension du domaine du pathologique. Là, on est en train de traiter d'une chose qui est le déplacement du cœur du problème. Je m'explique. Je connais un peu le programme. Enfin, j'en ai vu un peu la genèse. Passer d'une stratégie, passer du dépistage de masse à un dépistage individualisé, c'est un problème de stratégie et de choix stratégique. Une stratégie prend en compte des données, y compris statistiques, avec toutes les controverses qu'il y a à faire, mais aussi prend en compte d'autres considérants. J'observe qu'en l'occurrence, c'est une équipe de professionnels, je ne vais pas qualifier, y compris à l'échelle européenne, avec un financement européen, qui a engagé un travail d'essai, mais qui ne peut pas être une réponse pour la question de la stratégie. L'Institut national du cancer n'existe plus, la DGS n'existe plus, on ne débat plus de la stratégie. C'est-à-dire que si la question, la stratégie de masse du dépistage du cancer du sein est en cause, d'abord, il aurait fallu pousser l'évaluation pour dire ce qui a été fait. Et secondairement, il faut se poser la question, quelle stratégie alternative ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a laissé le vide institutionnel délibéré, appauvri, démissionnaire, gravement démissionnaire, et on laisse les chercheurs à la quête de projets de financement pour continuer à exister. Et après, on se querelle sur les modèles statistiques. Et le débat qui est d'ordre stratégique devient un débat d'ordre technique. Bravo. Déplacement de l'objet essentiel du sujet fait partie de l'expansion du domaine du pathologique. Sachant que parmi les gens qui impulsent ce programme, il en est des particulièrement honnêtes. ou lien probablement dépendant ou non dépendant. Mais vous voyez comment on déplace la question. C'est une question technique, de méthode. Madame Bourg, c'est à vous de répondre.
Monsieur, effectivement, c'est l'objectif secondaire, c'est de faire ensuite une étude de supériorité, mais peut-être que le design sera différent.
Non,
mais c'est, l'objectif secondaire, c'est ça.
C'est la transformation. Il faut une transformation du seuil de sélectivité, c'est-à-dire qu'en pratique, l'intervalle à 95% que vous avez présenté, en fait, il sera modifié parce que justement, ils auront fait deux tests, donc il y aura une modification du seuil pour tenir compte du fait qu'ils avaient déjà fait un premier test, sauf qu'on oublie en faisant ce deuxième test que de toute façon, la construction de base, elle était sur l'idée que ça serait une non-infériorité. Donc c'est aberrant de partir sur, après, se dire, ah ben tiens, chouette, il y a une supériorité, je vais la tester. C'est faux, c'est pas possible ça.
Alors, donc, tout à l'heure, pour conclure, donc, on parlait de démantèlement des dépistages. Donc, là, maintenant, je suis vraiment partagée. Je me suis dit, c'est un plan de relance, le dépistage, finalement,
mais,
qui est en train
bien sûr.
Alors, est-ce que c'est un plan de relance ou est-ce que c'est un plan où on va assister, finalement, à une faible adhésion? Parce que là, ils ont quand même beaucoup de mal à recruter et que ça va mourir tout seul et pour les pouvoirs publics vont dire...
C'est pire que ça. En fait, vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose que je n'avais pas compris au départ. Ce qui c'est terrible, c'est qu'en pratique, en ayant choisi ces deux options, c'est le moyen pour les auteurs, au final, de dire, regardez, ces deux options qui existent ne sont pas différentes. Donc, pourquoi se priver l'une de ou l'autre? Donc, en fait, c'est pouvoir maintenir les deux.
Oui,
donc, ça veut dire maintenir le dépistage tel qu'il existe aujourd'hui. C'est fou, quoi, comme truc.
Et pendant les 6 années de l'étude, le dépistage standard est sanctuarisé.
Bien sûr.
Il n'est pas sanctuarisé. Il est en cours de démantèlement, croyez-moi. Il est en cours de démantèlement.
Mais l'étude va montrer le contraire à ce moment-là.
Oui, il est en cours de démantèlement, il ne sera pas remonté. Le dépistage, le programme organisé de dépistage de masse du cancer du sein date des années 80. Il a fallu galérer pour le monter. Ils ont convaincu tout le monde, ils ont mobilisé toutes les ressources. Ils sont en train de le démanteler de manière... J'arrive pas à trouver le qualificatif. C'est de manière non délibérée, en laissant tomber l'affaire, en restructurant.
Mais c'est pour ne pas perdre la face en disant...
Il y aura plus de programmes systématiques de dépistage. Comme il n'y aura pas d'évaluation, ce qui est plus grave. Alors là, c'est, me semble-t-il, des logiques industrielles qui ont dû faire jonction avec des équipes de chercheurs à la recherche de financement de programmes. Et je n'ai même pas dit que la DGS ou l'INCa s'emparera des résultats. Ils font leur vie. Pour chercher, il faut avoir des financements.
12 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Financés à hauteur de 12 millions d'euros de
l'Union européenne. Bien sûr.
C'est pas pour commercialiser Mamo Risk, tout simplement.
Oui.
C'est ça, hein. C'est ça, je crois qu'il faut le dire.
Je vais développer, mais je crois que ici, il va être proposé aux radiologues, aux gynécos et aux médecins.
Voilà.
Allez-y.
Je vous remercie toutes les deux pour ces deux interventions. Je dois reconnaître que l'intervention, la deuxième, m'a plutôt. Inquiétée, angoissée, c'est-à-dire que quelque part, ça me donne l'impression que la prévention est particulièrement iatrogène. Donc, à la limite, il y a une perte de confiance.
C'est pas de la prévention,
c'est du dépistage.
C'est du dépistage. C'est pas pareil.
C'est tout à fait l'opposé.
De toute façon, la prévention, c'est du contrôle social.
C'est de la prévention dans le domaine du diagnostic, on va dire.
Moi, mais par contre, ce qui est important, c'est aujourd'hui une erreur sémantique. Ce qui est important, c'est le sentiment de méfiance. Ça, je pense que c'est quelque chose que l'on partage. On m'a demandé de me présenter. Je m'appelle Annelise Favier. Je suis venue exprès de Montpellier pour être avec vous. Et je suis anthropologue. Voilà. Alors du coup, Madame Taboulet, je voulais aussi vous remercier pour votre très riche présentation. À la limite, j'ai presque envie de vous dire qu'on est un petit peu sur la comparaison entre le généraliste et le spécialiste, c'est-à-dire que finalement, chaque thème que vous allez aborder mériterait un grand développement. Néanmoins, les choses que ça m'a évoquées, bon, évidemment, en tant qu'anthropologue, je ne peux pas aller ailleurs que dans le rapport par rapport au social et par rapport à la société. Comme il a été dit tout à l'heure par ce monsieur, au moment de l'intervention de monsieur Thomas, on ne peut absolument pas déconnecter le médical du politique, et je dirais même à la limite plus que du politique, du culturel et du sociologique. Et en vous écoutant parler, vous m'avez fait remonter de manière très forte, peut-être je vais ressusciter un bon barbu qui était donc Karl Marx, qui nous disait que le capitalisme ne crée pas que des objets, mais il crée avant tout des sujets pour ces objets. Donc quand vous parlez du consentement et qu'on n'est plus dans un dialogue, puisqu'il semblerait que ça soit le patient, entre guillemets, et les guillemets sont importants, qui mène la barque, on ne peut pas perdre de vue que ce cher patient, il ne fait quelque part qu'exprimer un désir qui lui a été suscité. On est aussi dans ce que Vance Packard appelait la persuasion clandestine, c'est-à-dire que nos désirs nous sont suggérés par l'environnement social. Et je dirais qu'à la limite, le médecin, dans ce cas de figure, où il est complètement déconnecté de la demande du patient, où il est lui-même contraint de vendre son âme au diable pour pouvoir suivre. Et par ailleurs, on est aussi pour moi dans le système des objets de Baudrillard, c'est-à-dire finalement un désir qui nous est complètement imposé par la société à laquelle on appartient. Et comme a dit monsieur Rouge comme votre pull, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'effectivement dans la relation soignant-soigné, c'est qu'en fait on n'est plus sur un patient. De ce côté-là, c'est une très bonne chose parce qu'on ne nous demande pas de nous taire, mais d'être patient et d'être sage et d'être soumis. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est devenu, on n'est pas des patients, on est des clients. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est au centre de la problématique du médical aujourd'hui. Et comme je voudrais ne pas être trop longue, je m'arrête sur cette conclusion. Si on ne veut pas que la médecine devienne une technique, comme il a été dit plusieurs fois à juste titre dans le risque contemporain, il faut absolument, sans arrêt, la réintroduire dans le politique et dans le social. Sinon, on va dans le mur.
Super conclusion. Super conclusion. Vous nous avez mené à bord de manière remarquable. Regardez, il est presque midi. Ce qui est simple, c'est qu'on a commencé avec 13 minutes. On a commencé avec 13 minutes de retard.
Et on a 3 minutes d'avance.
Mais pour aller manger, on est à l'heure. Alors, cet après-midi, donc d'abord on mange. On ne mange pas de manière coupable. Hein. C'est vous qui avez payé votre repas. Nous payons nos repas. D'accord. Vous en connaissez pas le principe. Hein. Donc les 40 euros que vous avez payés, un peu moins pour les internes et les gens sans travail, servent à financer les pauses café et les repas. La salle nous ayant été gracieusement mise à notre disposition par la revue Prescrit. C'est au moins un effort d'être en cohérence avec nos valeurs, l'indépendance. Okay. Ensuite, cet après-midi, on reprend donc. On va prendre le temps de manger, on reprend à 14h.
C'est ça ?
Oui, en principe. Oui, ça. En principe, à 14h. Il va y avoir quelqu'un de nous qui va se dévouer pour porter la parole de Jean-Claude qui n'est pas parmi nous. D'accord, je crois que ça va être Alain. Hein. Il a fait un diaporama ou Michel, comme vous voulez.
C'est difficile.
Donc, une conférence l'après-midi et l'atelier pour les travaux. Comme ça. Pardon ?
On pourrait avoir la présentation de madame concernant l'extension de remboursement. Ça serait bien, ça.
Ah, ben oui.
Si on gagne un petit peu de temps, on peut avoir la présentation.
Après l'atelier. Pour être juste, c'est une question de justice.
C'est la part.